La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Soulager les aidants, le temps d'une pause, prendre du temps pour soi, c'est ce que propose Elisabeth la ressourcerie, c'est à Bordeaux.
Oui, elle est ouverte depuis le 1er avril à Bordeaux, elle s'inscrit dans une démarche des aidants familiaux, je vous rappelle ce chiffre, on estime à 11 millions le nombre d'aidants familiaux en France. Les aidants, eh bien, ce sont ces personnes qui s'occupent quotidiennement d'un proche dépendant. Et là donc, la ressourcerie, c'est un lieu, c'est un immeuble en plein cœur du centre-ville de Bordeaux qui accueille des aidants pour leur offrir ce moment de répit et de bien-être tant attendu. Ça ressemble à un appartement, 90 mètres carrés d'espace chaleureux parce qu'il a été pensé avec les futurs utilisateurs. Bonjour Catherine Roux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la chargée du projet de cette ressourcerie. Il faut dire que la ressourcerie, ce n'est pas un projet isolé. Il s'agit d'un projet du groupe Malakoff Médéric Humanis dont vous faites partie. Et c'est vous qui avez eu l'idée.
C'est ça.
Comment ça s'est passé?
Alors l'idée, elle a émergé progressivement puisque j'ai été attirée très très jeune après mes études à l'âge de 20 ans par le monde de la gériatrie. Et j'ai eu une expérience un peu diversifiée en EHPAD, à l'époque ça s'appelait les maisons de retraite, en service de soins à domicile. Et j'ai été chaque fois confrontée à l'accompagnement de ces familles qu'on appelle maintenant aidants. Alors ça commence à être un peu mieux connu, c'est vrai.
Oui.
À ces familles qu'il fallait accompagner souvent dans des situations de crise. Donc progressivement, je me suis dit, c'est pas possible, il faut arriver à les capter différemment, autrement pour leur proposer de l'accompagnement, mais pas dans ces situations.
Oui. Dans un moment plutôt de bien-être,
exactement.
Détaché d'une crise.
Exactement. Du coup, progressivement, j'ai mûri cette nouvelle approche, et c'est grâce notamment à l'innovation sociale au sein du groupe Malakoff Médéric Humanis que j'ai pu mettre en œuvre cette expérimentation, puisque c'est une expérimentation, comme vous l'avez dit,
jusqu'au 1er avril.
Ouvert du 1er avril. Donc là, on en est à 6 mois, on peut commencer à faire un petit bilan. Cette expérimentation d'une approche différente pour aller capter des aidants.
Alors, elle ressemble à quoi, cette ressourcerie, cet immeuble ?
Cet immeuble, c'est un immeuble de ville. Il n'est pas, c'est pas un centre social, c'est pas un centre de soins. Voilà. C'est un espace qu'on a co-construit avec ses futurs usagers. Donc, on les a réunis, on les a fait travailler autour de ce projet pour qu'il soit leur projet, en fait. C'est pas un projet que de professionnels. C'est un projet pour eux et qui s'approprie cette solution pour en faire aussi une solution qui corresponde à leurs besoins. Du coup, on est parti sur une maison, un appartement tout à fait classique, et on les a fait travailler sur l'aménagement de ce lieu. Comment ils voulaient arriver? Est-ce que c'était un guichet?
Donc, dites-nous, dites-nous.
Donc en fait, on arrive sur un canapé avec une cuisine, un espace modulable où on peut faire des ateliers, on peut faire de l'activité physique, tout un tas d'activités pour se ressourcer. Et c'est là que le nom ressourcerie prend son sens aussi, parce qu'on voulait pas stigmatiser aussi ces personnes-là par quelque chose de connoté aidant. Ils viennent pour se ressourcer et derrière, on va capter ces aidants pour leur apporter de l'accompagnement.
Donc il y a des professionnels là-bas qui sont là pour les accueillir.
Professionnels, exactement.
Psy.
Mais quand vous rentrez dans le lieu, c'est un lieu de vie. C'est pas un lieu professionnel. Vous rentrez pas sur des bureaux, voilà. On peut prendre un café, ça fait un espace très convivial, un peu scandinave dans l'esprit.
Comme si on venait voir des amis, finalement.
Exactement, tout à fait. Et c'est ce qu'ils expriment, c'est ce qui leur plaît. En revanche, il y a quand même une démarche professionnelle, avec des professionnels en charge de l'animation, et également de l'accompagnement individuel, pour pouvoir, ces aidants, leur proposer des solutions pour soulager leur quotidien. Donc, c'est des solutions éventuellement très pratico-pratiques, de type un peu conciergerie, c'est-à-dire je fais réparer une lampe chez ma mère parce que je n'ai pas le temps d'y aller, je peux faire livrer des courses, mais aussi d'un accompagnement social et psychologique.
Guillaume, notre coach.
Moi, je suis déçu, je me disais, mince, une nouvelle recyclerie à Bordeaux, en quoi elle se différencie des autres ressourceries
La ressourcerie, ce terme nous a séduit parce qu'il incarnait complètement ce qu'on voulait faire de ce projet, à la fois que les aidants, notamment, se ressourcent, donc puissent accéder à des ateliers de bien-être, des ateliers créatifs, des sorties culturelles, de loisirs qu'ils s'octroient très très peu, et à la fois pouvoir accéder à des ressources en termes de soutien au quotidien dans leurs tâches d'accompagnement, dans leur
C'est ouvert à tous,
C'est ouvert à tous, c'est important, ça n'est pas ouvert qu'aux aidants. Parce que quand on est aidant, on ne s'identifie pas comme aidant. On ne se dit pas « je suis aidant, je suis le mari de quelqu'un qui a un cancer, de mon épouse qui a un cancer, ou je suis la mère d'un enfant handicapé, ou j'accompagne un parent ». Donc, C'est ouvert à tous parce que quand on les a interrogés, ils voulaient fréquenter les personnes, les aidants, qui aillent bien. Ils ne voulaient pas être qu'entre aidants. Et du coup, c'était le côté non stigmatisant, faisait qu'on accueillait tout le monde. Charge à l'équipe, comme vous disiez, à l'intérieur, qui sont des professionnels de l'accompagnement, de détecter ces aidants et de leur faire prendre conscience qu'ils sont aidants et qu'on peut les accompagner.
Dernière question, oui. C'est duplicable dans d'autres territoires ?
Alors, c'est une expérimentation qui n'a que 6 mois. C'est vrai que c'est déjà... Enfin, c'est encore
mais
un
c'est
peu
la
tôt.
Volonté.
Mais oui, la volonté, ça pourrait être ça, en effet. On a une mesure d'impact social aussi qui nous accompagne pour bien voir les effets bénéfiques de ce projet sur les aidants. Parce que c'est bien d'avoir des idées. Il y a un tas d'idées sur le territoire pour les aidants. Il y a des solutions diverses et variées. Mais... voilà, c'est quand même un investissement aussi du groupe Malakoff Médéric Humanis. Donc, il faut prouver que ça a un intérêt pour pouvoir après aller les s'aimer sur le territoire. Et là, c'est plutôt positif. Donc, j'espère qu'en effet, on pourra offrir à d'autres aidants sur d'autres territoires ce projet.
Et pour l'instant, c'est à Bordeaux. Ça s'appelle La Ressourcerie. C'est une solution pour les aidants. Merci d'être venu nous en parler.
Merci
sur
à
Europe
1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser à notre santé mentale. C'est la journée mondiale aujourd'hui et on vous attend bien sûr au 3921 et sur Twitter. Si vous avez des questions ou des témoignages, vous êtes les bienvenus. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on essaie de vous montrer qu'il y a des hommes et des femmes de talent qui essaient de résoudre des problèmes de société, qui innovent aussi, y compris, vous allez le voir, dans des domaines comme celui de la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la journée mondiale. Or, le terme recouvre des pathologies extrêmement diverses. Je vais d'ailleurs tout de suite me tourner vers vous, Elisabeth. Quand on parle de santé mentale, on fait référence à quelle maladie, par exemple ?
Très souvent, la santé mentale, c'est on parle de la dépression et de la schizophrénie. Ce sont les pathologies les plus fréquentes parce que la dépression, eh bien, elle frappe un Français sur 5 au cours de sa vie. Et la dépression, eh bien, ça n'a rien à voir avec un simple coup de mou. Et pour en sortir, il ne suffit pas de dire à l'autre « secoue-toi ». Non, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave que cela. Et ce sont des symptômes en apparence anodins, mais ils ne doivent pas être négligés. Donc, il faut veiller sur ça. La schizophrénie, là aussi, c'est une autre maladie psychique. Elle suscite énormément d'idées reçues. Ce ne sont pas des dingues, ce sont des personnes qu'on doit prendre en charge, qu'on doit écouter, qu'elles ont un traitement médicamenteux. Elles touchent 600 000 personnes en France, principalement de jeunes adultes.
Et puis, quand on parle de santé mentale, il y a aussi les troubles anxieux. Bonjour Pierre Gadea.
Bonjour Raphaël, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de C2Care. Vous avez fondé avec Romain, qui est votre associé, cette start-up qui propose de la cyberthérapie. Sauf qu'à l'époque, pour dire vrai, quand vous l'avez créée, je crois qu'on est dans les années 2014, vous n'êtes pas du tout sur ce créneau médical. Vous êtes davantage tourné vers l'immobilier. Mais il va se passer quelque chose. Il y a une équipe médicale qui vient taper à votre porte.
Tout à fait. Créer une start-up, c'est avant tout une affaire de rencontre et nous étions dans la réalité virtuelle, mais au service de l'immobilier et les services du professeur Lançon et notamment le docteur Éric Malbos est
venu
nous rencontrer pour qu'on puisse l'accompagner pour développer l'outil.
Donc, vous allez commencer à collaborer avec des spécialistes pour essayer de voir avec eux ce que vous pouvez faire pour adapter finalement la réalité virtuelle au domaine des troubles mentaux.
C'est ça. L'une des meilleures méthodes pour pouvoir soigner tout ce qui est phobie, troubles du comportement alimentaire ou d'addiction, c'est de pouvoir se confronter face à l'objet de ces phobies.
Et on voit en même temps une vidéo d'ailleurs en ce moment même sur Europe1.fr.
Donc pouvoir se confronter de manière graduelle. Or, on ne peut pas forcément aller sur le terrain avec son psychiatre et la solution est la réalité virtuelle.
Donc, par exemple, j'ai peur du vide. Vous allez me mettre dans un immeuble comme si j'étais au bord d'un précipice.
Alors, on va y aller par étapes. Hein. L'idée, c'est de ne pas faire une crise de panique. L'idée, c'est de pouvoir faire une désensibilisation progressive avec un psychologue ou un thérapeute ou un psychiatre, comme je les ai mentionnés. Et on va vous amener de manière très graduelle, après avoir fait de la psychoéducation, après vous avoir appris à maîtriser votre anxiété, maîtriser votre stress, on va vous amener d'abord 1 ou 2 mètres de hauteur, puis après vous allez terminer en haut du building, sans passerelle, et apprendre à maîtriser cette anxiété, pour ne plus être dans l'évitement.
Parce que derrière ces troubles, il y a forcément un dysfonctionnement d'ordre neurologique ?
Alors, ça peut être dû à un dysfonctionnement neurologique, ou ça peut être tout simplement dû à un traumatisme ou autre, ou une pathologie simple qui peut arriver. Mais l'idée, c'est de plus être dans l'évitement et de pouvoir s'entraîner, s'habituer.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un casque de réalité virtuelle?
Exactement.
Et je suis accompagné. Il y a un thérapeute à côté de moi.
Toujours accompagné. Toujours accompagné de manière graduelle. Vous allez avoir un casque de réalité virtuelle et vous allez pouvoir libérer la parole, libérer vos émotions et apprendre justement à gérer ce stress.
Et le thérapeute, lui, voit ce qui se passe dans le cerveau du patient?
Pas dans le cerveau du patient. Le thérapeute voit ce que voit le patient, ce que vit l'expérience du patient pour avoir une expérience.
Il n'a pas une lecture de ce qui se passe dans la tête du patient?
Non, non.
Que dit notre coach de ce casque de réalité virtuelle?
J'ai plusieurs questions. Mes premières questions, est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale?
Alors oui, c'est remboursé par la Sécurité sociale quand vous allez voir un médecin psychiatre ou par les mutuelles quand vous allez voir votre psychologue.
Et de passer de l'immobilier effectivement à la santé mentale, donc on parle d'un pivot effectivement dans ces startups. C'est quoi l'étape d'après? Comment vous allez scaler le business, le développer? J'ai vu que vous étiez en partenariat avec 400 établissements. C'est quoi l'étape d'après?
Alors l'étape d'après, c'est de pouvoir développer de nouvelles applications. On n'est qu'au début. On a ce qui est la réalité virtuelle. C'est vraiment le tout début en santé. On est notamment en train de développer pour des programmes pour aider les personnes souffrant d'Alzheimer, pour accompagner en euros et pouvoir aussi développer dans d'autres domaines, comme notamment la formation en santé.
Elisabeth,
être avec un casque et être comme ça en immersion en réalité virtuelle, par exemple, pour faire face à un syndrome de panique, ça s'apparente à de la thérapie comportementale. Est-ce que vous avez déjà un recul sur les résultats? Parce que quand on se retrouve, quand on a une panique, une crise d'angoisse dans le métro, par exemple, dans un endroit clos, fermé, avec de la foule...
En agoraphobie.
En agoraphobie. Est-ce que le fait de l'avoir vécu avec mon casque de réalité virtuelle va me permettre d'être beaucoup plus calme?
Toute la subtilité est là. Le but, c'est de ne pas arriver à la crise de panique et d'apprendre de manière graduelle. Comme je vous ai dit, c'est vraiment progressivement qu'on va apprendre.
Donc vous allez lui dire la prochaine fois, venez en métro et on va voir s'il y a un résultat.
Ça fait partie des étapes du traitement. On commence par enseigner comment on va maîtriser son anxiété avec la psychoéducation. On commence à s'exposer de manière graduelle aux différents types d'environnement. Et l'étape ultime, c'est de l'exposition in vivo, de pouvoir être seul.
Vous les accompagnez en vivo?
Alors, moi, je n'accompagne pas. Certains médecins les accompagnent en vivo si c'est nécessaire. Mais le but, c'est vraiment une étape. La réalité virtuelle en elle-même, elle ne soigne pas. Ça reste un outil au service de l'humain qui puisse être en plus pour le thérapeute pour arriver justement à pouvoir réussir à s'exposer seul.
Mais vous dites en 7 à 8 séances, en moyenne, on arrive à désactiver le processus.
Ça, c'est les études qui l'ont montré. Ce sont des thérapies qui sont des thérapies brèves, qui sont sur une dizaine de séances. Et c'est pour ça que nous travaillons avec une vingtaine de services hospitalo-universitaires qui sont basés de Lille à Marseille, en passant par Saint-Étienne, Lyon et tant d'autres, qui nous font confiance et qui nous demandent de créer des outils pour faire des études et améliorer au quotidien tout ce qui est cahier des charges, les protocoles et les environnements.
On reste ensemble et on continue à parler santé mentale aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h18. Le stress est un ennemi du quotidien contre lequel il faut lutter. Pour nous y aider, un casque est né. Il s'appelle Melomind. À tout de suite.
C'est la journée mondiale de la santé mentale, on en parle cet après-midi dans la France Bouge. Vous souffrez de troubles anxieux, vous avez un proche qui suit un traitement psychiatrique, venez nous en parler sur Europe 1 en nous appelant au 3921. Vous pouvez également nous écrire, poser vos questions sur Twitter, @Europe1Raphaël.
Aujourd'hui au travail, dans la rue, bref, dans notre quotidien, de plus en plus de gens se disent exposés au stress. Les risques psychosociaux ont fait leur entrée dans notre vie, or il existe des moyens finalement de les tenir à bonne distance. Bonjour Johan Attal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de My Brain Technology et vous commercialisez, il est là avec nous dans le studio d'Europe 1, un casque d'entraînement cérébral anti-stress. Il s'appelle Melomind.
Exactement, Melomind. Ouais.
Alors on entend le mot mélodie, évidemment. C'est en 2014, je crois, que tout va démarrer pour vous et que vous vous lancez avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Pourquoi? Quel est le déclic?
Le déclic, c'est qu'aujourd'hui, la recherche en neurosciences cognitives et en imagerie cérébrale ont apporté un niveau de maturité qui est suffisant pour apporter des solutions qui montrent comment le cerveau fonctionne et qui permet de donner des solutions concrètes. Le stress, pourquoi? Parce que c'est un problème majeur et tous les symptômes qui vont derrière. Aujourd'hui, spécifiquement, l'anxiété encore est quelque chose d'encore plus grand. C'est ce sur quoi on travaille et on apporte des neurosciences pour le grand public.
Le stress, l'anxiété, c'est un marché qui touche tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir de plus en plus déchiffrer.
Exactement. Aujourd'hui, c'est près de 260 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'anxiété. Alors, on dit les troubles d'anxiété généralisés, donc les phobies, jusqu'à l'anxiété, le souci qu'on porte à la vie et qu'on se demande est-ce que demain, comment sera fait demain ou aujourd'hui, et ça, c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, les neurosciences permettent d'apporter, notamment via un casque comme MeloMind, qui est couplé à une application mobile, un système d'entraînement très très simple d'utilisation.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? On met le casque, on déclenche l'application. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du casque et qu'est-ce que va nous proposer l'appli ?
Alors le casque, en fait, c'est un casque audio, donc tout simplement comme un casque audio standard qu'on met sur la tête. Donc si vous savez faire mettre un casque audio sur la tête, vous savez faire ce qu'on appelle de l'EEG, l'électroencéphalographie, qui mesure l'activité électrique de votre cerveau. Ça, c'est vraiment une prouesse technologique qu'on a amenée ces 4 dernières années. Et associé à ça, il y a une application. Donc une fois que l'utilisateur a mis son casque, il lance l'application MeloMind et l'application va lui proposer un entraînement cérébral de 15 minutes. Et ça, il va le faire semaine après semaine.
À partir du moment où j'ai le casque sur la tête, on va recueillir mon activité cérébrale ?
Exactement, c'est tout à fait indolore et, ça, et on ne fait que recevoir l'activité que naturellement nous générons spontanément.
Et on va voir les pics de stress par exemple ?
Alors on ne voit pas directement les pics de stress. En fait, on va voir ce qu'on appelle un biomarqueur de la relaxation. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des grands mots pour dire l'activité électrique qu'on génère avec notre cerveau, c'est l'image directe de notre état mental. Ce qu'on veut, c'est aider les gens à être capables de renforcer des processus naturels qui sont faits pour combattre le stress et l'anxiété, qui sont associés à un processus de relaxation. Tout le monde sait le faire, mais est-ce qu'on est capable de l'entraîner et de l'approfondir ? C'est le travail de MeloMind.
Que dit notre coach ?
Moi, ça me fait penser à Matrix, ce genre de casque. J'ai l'impression que là, je suis rentré dans la matrice, on m'a connecté le casque là. Et je vais me détendre pour poser une question sur ce futur. Alors on approche effectivement le futur de la prévention en santé mentale. Donc là il y a ce casque et quels peuvent être donc c'est un objet connecté. Donc quels peuvent être les autres innovations qui pourraient permettre de compléter cette solution que vous proposez.
Alors il y a toute une partie d'innovation qui pourrait être sur le casque lui-même, l'améliorer, le rendre de plus en plus transparent. On a déjà fait un très gros travail pour que ça ne soit qu'un casque audio. Donc, si vous regardez sur internet un EEG, vous verrez que ça ressemble pas à ça, c'est très complexe. Là c'est des électrodes sèches, vous le posez sur la tête, ça marche. Le reste après se fait dans l'application et donc on peut traiter différentes choses. Aujourd'hui on est sur le stress, l'anxiété, souvent avec des grosses, la majorité du temps avec des épisodes dépressifs. Et donc aujourd'hui ça s'ouvre à un spectre beaucoup plus large. Nos clients aujourd'hui, près de 2000 utilisateurs, sont des gens qui ont des troubles d'anxiété, d'insomnie, de dépression. Il y a vraiment de tout. Et des gens tout à fait sains qui ont envie juste d'entraîner leur cerveau et de progresser dans la capacité à avoir une meilleure hygiène mentale. Et donc aujourd'hui, on prend souvent soin de son corps, mais c'est moins évident pour tout le monde de dire il faut entraîner à améliorer sa santé mentale.
Elisabeth,
comment on l'entraîne ? Parce que je sais qu'il y a d'autres thérapies, par exemple le MDR ou pareil, vous mettez un casque et avec, à travers des vibrations, ça vous permet d'abaisser votre niveau d'anxiété. Là, on entend quoi concrètement ?
Alors, c'est une très bonne question, c'est le cœur de MeloMind. L'idée de MeloMind, c'est de se baser sur une technologie de neurosciences qui est assez ancienne, qui a une cinquantaine d'années, et qui s'appelle le neurofeedback. En fait, toute l'idée et l'outil, c'est de donner conscience à l'utilisateur en lui renvoyant, là c'est pour ça que ça s'appelle MeloMind, Melo, parce qu'on lui renvoie une musique, c'est du sound design, c'est du son. Et ce son va contenir à l'intérieur une sorte d'indice qui va changer en volume. Et donc, il va remonter quand les gens sont plutôt en train de ruminer ou de se soucier, de ne pas lâcher prise. Ce qui est, entre guillemets, magique, c'est qu'on va capter les moments où les gens ne lâchent pas prise et on va leur donner un indice en leur disant « Attention,
c'est le moment
de revenir dans un état de relaxation profonde. » Et c'est là qu'un apprentissage se fait et qu'on peut moduler soi-même et transformer son cerveau.
Vous avez fait des études cliniques. Les résultats, je crois, seront connus à la fin de l'année, c'est ça ?
Tout à fait. On a fait plusieurs études, notamment 3 études sur les différentes dimensions du produit, sur le casque, sur l'application, sur le marqueur lui-même dont je parlais de ce niveau de relaxation. Et d'ici la fin de l'année, on va publier ces résultats. Certains résultats, notamment préliminaires, qui sont faits avec l'Institut du cerveau de la moelle épinière, qui est une étude qu'on dit randomisé double aveugle, c'est-à-dire c'est un truc très sérieux, scientifique, qui permet de montrer qu'on a une démarche derrière d'un haut niveau scientifique avec des partenaires de l'Institut du cerveau. Et c'est une étude, je crois, même unique au monde. Cette étude-là, telle qu'elle a été montée par nos équipes de recherche, est vraiment très très forte.
Vous viendrez nous en parler quand les résultats seront connus. Hein, en
avec grand plaisir.
Elisabeth, je voudrais qu'on s'intéresse aussi aux personnes qui ont des tendances suicidaires. Mmh. Là aussi, il y a des initiatives.
Oui, hein. Il y a eu des initiatives, notamment là, depuis cette année à Paris, il y a eu la création du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est un endroit qui est installé, qui est ouvert depuis le 1er janvier. Il emploie 5600 personnes, dont 600 médecins. Et là-bas, au sein de ce GHU, il existe une unité dédiée aux personnes suicidaires ou suicidantes, c'est-à-dire celles qui ont déjà commis une ou des tentatives. Et d'ici 2020, eh bien, ce GHU Paris va coordonner tout un programme qui a pour objectif de prévenir et de faire de la veille sur des cas suicidaires très précis.
On reste ensemble et on continue à parler santé mentale aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et on va s'intéresser à cette santé mentale parce que c'est une vraie question de santé publique. C'est pour ça, vous allez le voir, que s'est créée très récemment l'association PSSM. À tout de suite.
C'est la journée mondiale de la santé mentale, on en parle dans la France Bouge cet après-midi. Nous sommes souvent confrontés au stress, la dépression frappe un Français sur 5 au cours de sa vie. Les troubles anxieux sont de plus en plus présents pour nous, notre entourage. Nos invités ont des solutions pour les soulager, les prévenir. Vous souhaitez leur poser des questions? Écrivez-nous sur Twitter, @Europe1, ou appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Saviez-vous qu'il existe désormais une association Premier Secours en Santé Mentale? Et c'est vous, Jacques Maresco, qui en êtes le président, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes dans le secteur associatif depuis les années 80. Vous avez aussi d'ailleurs dirigé des hôpitaux psychiatriques associatifs. Mais depuis que vous êtes à la retraite, en fait, vous êtes devenu président de la Fédération de la Santé Mentale France. Le PSSM, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quelque chose qui nous vient d'Australiens. Finalement, c'est assez récent. C'est eux qui ont monté ce système. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une personne qui était elle-même atteinte de troubles psychiques. Par ailleurs était éducatrice, qui s'est associée avec un professeur de santé publique à Melbourne pour créer un système de secourisme en santé mentale, un peu à l'image de ce qui se fait dans les autres domaines de la santé physique, de façon à ce qu'on puisse prévenir un certain nombre de troubles, prévenir des hospitalisations et orienter les gens vers le système de soins. Ce qui est aujourd'hui un grand problème.
Et vous, ce sont des infirmiers qui sont venus vous dire, Jacques, il existe un système qui aide les personnes, qui peut nous permettre de détecter justement des personnes qui sont en difficulté.
Alors, c'est un organisme qui forme des infirmiers, qui était un des adhérents, qui est toujours un des adhérents de notre fédération d'ailleurs, et qui existe depuis 1975, et qui est venu me voir, enfin le directeur est venu me voir avec celui qui avait trouvé le programme, en me disant, voilà, nous on voudrait répondre à une demande d'une entreprise de transport de la région lyonnaise, service public de transport, Keolis, mais...
On n'a pas les outils.
On n'a pas les outils, et puis surtout c'est un programme national, et nous, on est un organisme de formation important, reconnu, etc., mais on n'a pas la dimension nationale. Et comme la fédération a des établissements, a des adhérents dans tout le territoire, ils voulaient se reposer sur notre réseau.
Donc là, on est en 2007. Vous montez 2017. Du coup, vous montez l'association en 2018. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle peut faire finalement ?
Tout de suite, j'ai dit au directeur de l'INFI, Brian Smith, qu'il fallait qu'on associe très vite les familles.
Oui.
Parce que qui dans la société a le plus conscience de l'utilité de savoir reconnaître rapidement, sinon les personnes qui ont été confrontées qu'un entourage. On aurait aussi bien voulu associer peut-être des associations d'usagers, mais c'est vrai qu'en France, elles sont très faibles, très dispersées. C'est un grand souci, ça. Voilà.
Donc vous faites quoi ? Vous aidez les personnes, vous arrivez à détecter finalement des troubles, faites de la prévention avant que la personne ne tombe vraiment.
Voilà, l'idée est d'aider quiconque, le grand public, vous, la personne qui nous a accueillis, le pompier, l'enseignant, l'hôtesse d'accueil, le policier, à être capable de reconnaître des signes de troubles psychiques ou à être capable de réagir correctement devant une crise qui peut se produire.
Elisabeth,
voilà. Par exemple, c'est quoi le signe du trouble psychique le plus fréquent qu'on devrait tous pouvoir reconnaître
et qu'on ne sait pas forcément
qu'on ne connaît pas forcément.
Alors, très souvent, quelle que soit d'ailleurs la catégorie de trouble, très souvent, c'est l'isolement, c'est le repliement. Ça n'est pas l'excitation, c'est ce qui ressort très souvent dans les images, dans l'imagerie, mais très souvent, c'est la personne qui s'isole, qui ne mange plus avec ses collègues, qui ne va plus à son club de gym, qui n'a plus d'activité sociale, qui se retire. Alors, ça peut être le signe de 36 sortes de troubles.
Mais c'est une alerte.
C'est vraiment une alerte.
Vous avez édité un manuel des premiers secours en santé mentale et aujourd'hui, vous faites de la formation, formation sur 2 jours. Votre objectif, il est important, hein, vous voulez former combien de personnes aujourd'hui?
Alors, notre objectif, c'est celui qu'on a contractualisé avec les pouvoirs publics, puisqu'on a une convention avec Santé publique France et avec le ministère de la Santé, c'est de former 500 000 personnes en 10 ans.
Ouais, pour l'instant, il y a une trentaine de formateurs pour 300 secouristes déjà formés, c'est ça?
Alors, on vient tout juste de... Parce que ce programme de formation, c'est un programme de formation sous licence. Hein, donc, on a acheté la licence australienne et il a fallu traduire, monter le programme pédagogique français, adapter aux ressources françaises, etc. Donc, on vient tout juste d'assurer la première formation de formateurs. Voilà. Les gens qui sont à l'origine du programme, qu'on a associés dès l'origine du programme, qui ont monté les outils pédagogiques, viennent d'assurer la première formation de formateurs. Mais ils ont eux-mêmes déjà fait des formations. Donc, aujourd'hui, on est à 300 personnes à peu près qui sont formées.
Guillaume, notre coach.
500 000 personnes sur 10 ans, c'est un objectif assez ambitieux. J'ai une autre question. Mais en Australie, ça représente combien de personnes qui ont été formées par cette association?
750 000 en Australie.
Donc
c'est-à-dire 2,16% de la population.
Ça pourrait être viable.
Voilà.
Et donc, votre réseau aujourd'hui, donc on a compris, vous êtes un réseau, finalement, une plateforme d'acteurs dans le domaine de la prévention.
Vous êtes
combien d'acteurs aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, les trois associés, alors l'UNAFAM, c'est une association qui a 15 000 bénévoles, qui est installée sur tout le territoire national, dans tous les départements. Nous, on a un beaucoup plus petit nombre d'adhérents, parce qu'on est des institutions, mais certaines
donc,
de nos institutions
ont 5 000 salariés. L'idée, c'est de développer ce réseau, c'est ça, pour former ces 500 000 personnes?
C'est votre objectif? Alors, l'idée est que, au départ, les personnes les plus concernées par ça, qui ont repéré ça, ce sont surtout des professionnels, des familles concernées, des pères aidants. Hein. Mais notre objectif à terme, c'est qu'un responsable ressources humaines d'une radio, d'une banque, etc., puisse aussi éventuellement devenir formateur.
Il y a un message,
un pompier
qui est passé.
Oui, voilà. J'ai entendu. C'est important.
La radio.
C'est important, oui. J'ai entendu.
Radio,
un responsable d'une radio, ouais. Ressources humaines, j'ai bien entendu, vous savez. J'ai les oreilles bien ouvertes. On reste ensemble et on va voir si les auditeurs, eux aussi, ont envie de vous poser des questions.
Il est 13h38.
Europe 1.
On vous attend, 3921, Twitter, vos questions ou vos témoignages, c'est comme vous voulez. C'est la France qui bouge, c'est votre émission. À tout de suite.
C'est la journée mondiale de la santé mentale. On en parle cet après-midi dans la France bouge avec vos invités, Raphaël Duchemin.
Pierre Gadea, directeur général et cofondateur de C2Care, start-up qui propose de la cyberthérapie pour le traitement des troubles anxieux. Johan Attal, PDG et cofondateur de MyBrain Technology qui commercialise notamment Melomine, un casque d'entraînement cérébral anti-stress. Et Jacques Maresco, président de l'association Premier Secours en Santé Mentale, le PSSM France. Je crois qu'on a déjà une première question sur Twitter. Céline.
Oui, hashtag Europe 1, c'est Marc qui nous dit, est-ce que vos différentes solutions peuvent être utilisées également par des enfants? Et si oui, à partir de quel âge?
Alors, qui a envie de répondre? Johan? Le casque Melomine, on peut le mettre aussi sur les oreilles d'un enfant?
Oui, tout à fait. Notre solution peut être utilisée à tout âge, avec une seule limite, c'est qu'on a un casque, comme vous pouvez acheter au grand public, un casque audio pour une taille adulte. Donc, je pense que pour les tout petits enfants, le casque ne sera pas la bonne taille. Mais à part ça, il n'y a pas d'âge.
Pour les phobies, pour les enfants, ça marche aussi, Pierre Gadea?
De notre côté, oui aussi, sauf qu'aujourd'hui, les recommandations constructeurs, c'est de ne pas mettre un casque à un enfant de moins de 11 ans. Mais d'un point de vue ophtalmique, c'est des mesures qui sont des mesures de précaution. On utilise beaucoup sur la phobie scolaire, notamment avec des enfants qui ont passé l'âge de 10 ans.
Alors, puisqu'on parle de phobie scolaire et école, je me tourne vers vous, Jacques Maresco. Est-ce que, justement, le PSSM, c'est quelque chose qu'on peut transposer dans les écoles? Est-ce qu'on va aller former, justement, ce jeune public?
Alors, pour l'instant, le programme en France, c'est pour les adultes et les grands adolescents.
Vous me voyez arriver en Australie.
Mais en Australie, ils ont développé des programmes pour les enfants, y compris de moins de 10 ans.
Pour éduquer ?
Pour éduquer, voilà. Donc, il y a, par exemple, un programme pour les 10-12 ans.
Elisabeth, oui. Je crois que vous avez trouvé des choses qui peuvent nous aider. On n'y pense pas forcément, mais
les animaux. Les animaux. Mais ouais, ils ont un énorme pouvoir juste pour les problèmes qui pour les personnes qui ont des troubles anxieux, des troubles mentaux, par exemple. Il y a une convention qui a été signée entre l'établissement public de santé mentale, le PSM, et le groupe ornithologique normand. L'objet de cette convention, c'est la création d'un refuge pour oiseaux au sein de l'hôpital psychiatrique, parce que effectivement, le chant des oiseaux serait bénéfique pour les troubles mentaux. Les chiens aussi qui ressentent des émotions, dont certaines peuvent être associées à une forme de compassion, et donc le chien, la relation avec l'animal peut créer les conditions d'un soin sans verbaliser, sans tout ce qui est tout sans traitement médicamenteux. Donc les animaux peuvent jouer un rôle.
Parce qu'on est sur le registre
des chevaux aussi, bien sûr.
L'équithérapie. On est sur le registre des émotions. C'est aussi ça qui permet d'avoir une action sur le cerveau.
Alors nous, on peut le voir en pratique parce que chez nous, par exemple, notre directrice de recherche a amené son chien chez MyBrain. Et je peux vous dire que c'est pas seulement ça crée de la relation entre le chien mais ça crée, et son maître, oui. Mais ça crée de la relation aussi à travers l'ensemble de l'équipe. Donc c'est assez intéressant de voir que cette composante sociale que le chien peut apporter dans la relation et ce retour, donc pas être compassion, mais ça peut être d'autres émotions, en réalité, ben, ça va être plusieurs personnes qui vont se réunir autour, qui vont se parler, qui vont créer une attention particulière au sein de toute l'équipe.
Pierre Gadère.
Je me permets de rebondir aussi, puisqu'on a travaillé aussi sur un compagnon en réalité virtuelle, notamment à destination des personnes âgées. On repart un petit peu sur une idée qu'il y avait avec le Tamagotchi il y a déjà des années, ouais. Qui permet de vraiment créer aussi une stimulation en activant tout ce qui est système limbique de récompense en interaction.
Jacques Maresco, je regardais votre guide, hein, manuel des premiers secours en santé mentale. J'ai ouvert un petit peu au hasard et je suis tombée sur les troubles des conduites alimentaires. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut alerter aussi.
Alors oui, parce que bien sûr, actuellement, dans les établissements psychiatriques, il y a beaucoup de personnes qui sont soignées pour ces raisons. Alors, dans le programme de deux jours, c'est une chose qui est abordée rapidement.
On donne les bases.
Évoqué, voilà. Par contre, là aussi, je pense que dans le développement, on sera amené à faire comme d'autres pays, parce que le Canada, les Australiens ont développé des modules spécifiques, mais d'autres pays qui sont venus avant nous, l'Angleterre, le Canada, la Suède, etc., en ont développé également, et ça fait partie sans doute des modules, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de santé publique concernant les conduites alimentaires.
On a une question de Marie-Paul, mais je pense que vous serez peut-être plus à même de lui répondre hors micro. Marie-Paul qui nous disait mon neveu de 17 ans est devenu totalement addict à la muscu, ça l'obsède complètement et plus rien d'autre ne compte, j'ai besoin de conseils. On va essayer de les lui donner hors antenne si possible, si vous avez les clés pour aider Marie-Paul qui nous appelait au 3921 des Hauts-de-France. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus
Merci.
Journée mondiale de la santé mentale.
Il est 13h46.
Europe 1.
Restez avec nous, on va remonter le temps d'ici quelques minutes et on va découvrir une entreprise qui fabrique du pain d'épices, 1796. C'est Mulot et Petit Jean, c'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Mulot et Petit Jean qui fabriquent du pain d'épices. Depuis 1796. Bonjour Catherine Petitjean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de cette maison depuis plus de 20 ans maintenant. Vous êtes la 9e génération.
Alors oui, je suis de la 9e génération. L'entreprise s'est transmise de père en fils. Et puis à ma génération, il y avait que des filles.
Il y avait des filles, mais ça va sûrement continuer après, j'imagine. Mais je voudrais qu'on revienne au point de départ. C'est d'abord Barnabé Boitier qui lance la fabrication du pain d'épices.
Oui.
Que votre famille arrive dans l'aventure.
Alors en 1796, oui, Barnabé Boitier s'installe pain d'épicier à Dijon, puisque il y a trois spécialités à Dijon, il y a le cassis, la moutarde et le pain d'épices. Et il y a eu beaucoup d'entreprises de pain d'épices qui se sont montées à cette époque-là, fin du 18e et début du 19e. Et Barnabé Boîtier s'installe. Il transfère son activité au 13 Place Bossuet, où nous sommes toujours installés. On a une boutique historique qui est très très belle. Hein.
L'hôtel Catin de Richemont.
L'hôtel Catin de Richemont, voilà, qui a été rénové en 1919. C'est une très très belle rénovation néo-gothique. En 1912, mon arrière-grand-père fait construire la fabrique, ce qu'on appelle la fabrique, où nous fabriquons toujours notre pain d'épices.
Ça signifie qu'on est sur une recette ancestrale, un savoir-faire ancestral. D'ailleurs, vous êtes la toute première entreprise à avoir eu le fameux label EPV, hein, entreprise du patrimoine vivant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Oui, c'est un beau label d'État qui récompense les entreprises avec un savoir-faire. Qui nous ont une entreprise qui sait aussi transmettre ce savoir-faire et qui sait le valoriser.
Ça veut dire que ça n'a pas changé, on fait le pain d'épices alors, aujourd'hui comme on faisait en 1796
Alors la recette, elle est effectivement la même, mais je dirais qu'elle s'est améliorée. Parce qu'on est plus vigilant à la qualité de nos matières premières. On fait aussi très attention voilà, à la fabrication, à la tenue dans le temps du produit.
Farine de froment, par exemple.
Farine de froment.
C'est essentiel, je crois.
C'est la recette du pain d'épices de Dijon. Alors, la farine de seigle, on peut l'utiliser, mais ça sera autre chose. Et puis nous, comme épices, à Dijon, on utilise l'anis.
L'anis.
Voilà, mais effectivement, dans certaines recettes, on met la cannelle, du poivre, la cardamone, toutes les belles épices.
Vous dites on fait attention à ce qu'on produit, on maintient nos savoir-faire. Vous dites on est quand même obligé d'aller chercher certains produits ailleurs, on n'est pas du 100% français.
Alors on ne peut pas avoir du 100% français. Sur nos recettes, sur le miel par exemple, qui est un vrai sujet d'approvisionnement, on va réussir à passer en miel Europe à partir de 2020. Voilà. Et sur certains produits, par exemple... la farine, en revanche, on est sur une farine Grande Bourgogne. Donc là, on est sur du français et du local.
Après la Seconde Guerre mondiale, avec les restrictions alimentaires, ça a été compliqué de maintenir les fabriques de pain d'épices vivantes.
Ça a été très compliqué. D'ailleurs, on est la seule à rester de l'épopée du pain d'épices à Dijon. Oui, ça a été compliqué. J'explique toujours que pourquoi on est encore là, c'est qu'on est resté sur nos savoir-faire. Les personnes qui dirigeaient l'entreprise à l'époque sont restées sur leur savoir-faire et ça nous a permis finalement de traverser les moments difficiles. Je pense aussi que les entreprises familiales ont un rapport au temps qui est un petit peu différent. Voilà, on préfère peut-être aller moins vite dans le développement, mais faire les choses bien. Et donc, on est agile aussi pour réduire la voilure quand il faut la réduire après des périodes de guerre comme a pu le connaître l'entreprise.
Que dit notre coach de l'aventure, Mulot et Petit-Jean ?
Moi, je suis toujours ému par ces histoires d'entreprises séculaires. J'apprends effectivement, 1796, c'est inimaginable. Le pain d'épices, j'ai entendu pain d'épices santé, c'est-à-dire finalement, à la fois le produit, il est beau, il est bon, et en plus... il procure un bien-être pour notre corps.
Alors, le pain d'épices, on appelait le pain d'épices le pavé de santé. Hein. Vous en avez un petit morceau
ici,
là.
Ici, si voilà. Vous me suivez sur europe.fr, il est là, le pavé de santé, dans ma main.
Alors, il faut savoir aussi, j'explique toujours, hein, qu'il y a 200 ans, la préoccupation des gens, des personnes, c'était de se nourrir. Donc, il fallait avoir un produit nourrissant qui se conserve bien. Nos préoccupations ont changé. Maintenant, on est sur du bien manger, peut-être un peu moins. Hein, voilà, c'est des choses auxquelles aussi nous sommes très attentifs.
Vous êtes une petite cinquantaine, c'est ça ?
Oui,
travailler avec plusieurs boutiques.
Hein, alors, on a plusieurs boutiques à Dijon et puis une à Beaune, voilà. Et puis, on a installé un musée. Donc ça, c'était une belle aventure parce que là, on est vraiment sur la transmission d'une histoire, d'un savoir-faire aussi, faire découvrir finalement aux consommateurs comment on fabrique et puis nos contraintes, ce qu'on fait également pour eux. Donc tout ça, c'était une belle aventure, voilà, l'histoire du musée.
Vous avez aussi des projets notamment, je crois, sortir une nouvelle gamme pour aller avec le fromage, du pain d'épices aux graines de moutarde, par exemple.
Voilà. Alors, moi, c'est une de, dans mon ADN, j'ai l'innovation. Alors, c'est l'innovation produit. Et donc, on sort là, en fin d'année, voilà, des tartinables et avec un pain d'épices, graines et son de moutarde pour être au plus près de la naturalité, c'est-à-dire ne pas rajouter de sel.
Voilà. Mulot et Petit Jean, c'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui. Merci d'être venu nous raconter un bout de son histoire sur Europe 1. Merci à Guillaume Kérou qui était notre coach, Elisabeth et Céline.
À demain. C'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, Ondelat raconte sur Europe 1.